Bonsoir Alicias, vous êtes bien à l'écoute de Et si demain, une émission que vous retrouvez tous les mardis en direct entre 17h et 18h avec à la réalisation Jean-Louis Zach Fraisse, et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que, notre ami Landy Seda va arriver dans quelques instants et j'espère qu'il y aura aussi Yann Valade qui sera là parce que normalement, c'est un invité qui est directeur de la CAFPO. S'il nous fait défaut, eh bien, nous allons improviser. Hein. Nous avons l'habitude, non pas tout à fait, mais si, nous le faisons, bien sûr. Alors, plein de choses à vous raconter ce soir. Comme à l'accoutumée, je salue au passage, je tiens l'ami Renaud Del Pérou, des Merles Moqueurs, un restaurant-bar tapas qui se trouve 8 allée Maurice Sarro à Toulouse, ligne A du métro Patte-d'Oie. Voilà notre ami Renaud Del Pérou qui faisait partie à une époque de la bande à Christian Moreto. Et donc nous avons au téléphone Céline Boussier, bonsoir. Oui, Céline, donc je rappelle que tu es lanceuse d'alerte et nous te remercions, nous te tirons notre chapeau et que tu as accepté de marrainer ou parrainer, comme tu voudras, l'émission Traversée, qui est l'autre émission, mais pourquoi pas ici demain aussi, l'autre émission que je produis et co-anime le vendredi matin. Alors.
Merci à toi de me donner, de nous donner, puisque à travers moi, c'est tout un collectif hein, réuni, de nous donner encore la parole, encore une fois de plus. Voilà, le travail vrai média militant comme vous et lanceur d'alerte est crucial et nécessaire. Hein.
Eh bien, écoute, je te remercie. Et donc, tu as écrit à madame, mais pas toute seule, un plaidoyer pour des institutions sociales et médico-sociales de qualité, lettre ouverte à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet?
Oui, alors, on peut la retrouver hein, sur un site ultra militant qui s'appelle Wifinit, puisqu'elle est en... On l'a mis sous forme de pétition aujourd'hui. Qu'en fait, elle fait écho avec la mobilisation d'aujourd'hui pour les EHPAD. Hein. D'ailleurs, moi, je souhaitais soutenir mes collègues de travail, puisque dans cette lettre ouverte, en fait, qui est extrêmement factuelle, hein, et on dit clairement, on brosse un peu toutes les déclarations qui ont été faites. Concernant le sujet du handicap. Hein. Alors la dernière quand même qui nous a fait bondir, hein, c'était les déclarations de Madame Sophie Cluzel dernièrement, puisque le 25 janvier, elle a dit que la France allait pas rougir de la politique du handicap, ou bien avant qu'elle serait intraitable sur la maltraitance. Mais bien avant elle, Marie-Arlette Carlotti et Marianne Montchamp, l'ancienne secrétaire d'État qui est aujourd'hui présidente du Conseil national pour l'autonomie, avait fait les mêmes déclarations et finalement ça fait des années qu'on nous bâtine sur des mesures qui pourraient être prises concernant la maltraitance, mais rien n'est fait parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce problème de maltraitance il est systémique, hein, c'est pas dû qu'à un individu, c'est bien dû à un moment donné parce que tout un système déraille et parce que ce qui m'agace aujourd'hui prodigieusement c'est quand on dit ben voilà on va arrêter la maltraitance avec plus de moyens, etc. Mais c'est archi faux, la racine du problème, et c'est ce qu'on demande à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, donc, c'est qu'un texte de loi soit porté à l'Assemblée nationale pour que le terme maltraitance et maltraitance institutionnelle rentre dans le code pénal, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a un vide juridique abyssal, et ce qui fait que quand... il y a des auteurs de maltraitance, ils ne sont jamais condamnés, puisque les plaintes, à 99% des cas, sont classées. C'est le cas de Moussaron. Et c'est aussi ce qu'on lui demande. Moussaron est un cas d'école. Je n'ai pas dit que tous les établissements ont été maltraitants, mais alors là, celui-là, en l'occurrence, oui, dans tous les sens du terme, et qu'aujourd'hui, j'ai été relaxée, mais les dirigeants, eux, n'ont pas été condamnés. Et on va dans le sens de ce qu'a demandé l'ONU à la France encore récemment, en janvier 2018.
Alors, Notre ami Landis est là, nous a rejoint et il va intervenir dans quelques instants. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus au niveau de la trame de cette lettre ouverte? Parce que, bon, elle comporte quand même 3-4 pages, donc ça veut dire que c'est. Ou 3 pages et demie, mais dactylographié, donc il y a quand même un contenu avec des références.
Alors, au tout début, donc, c'est ce que j'ai dit, on est parti d'un constat. Sur les déclarations publiques qui ont été faites en matière de handicap. Et de là, après, on a fait tout le déroulé assez factuel, mais précis, où on a bien démontré qu'il y avait des déclarations et des faits d'annonce, mais sans que jamais réellement les textes de loi étaient appliqués, pas plus que le rapport du Sénat en 2003, qui lui s'appelait maltraitance envers des personnes handicapées privées de la loi du silence. Et on m'a quand même rappelé qu'à de multiples reprises, la France avait été condamnée par l'ONU pour son non-respect de la Convention internationale des enfants handicapés, et en faisant référence au 19 janvier dernier, puisque là, c'est carrément le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a interpellé notre pays au sujet de son non-respect des droits des personnes handicapées. Sur les 300 recommandations qui ont été rendues, il y en a à peu près une dizaine qui ont été faites concernant le handicap. Et le Comité des droits de l'homme a encore une fois recommandé à la France d'assurer des conditions de vie dignes et de préserver l'intégrité physique et psychique des personnes handicapées face à l'institution. Donc ça fait écho à ce qui avait été dit en juillet 2015. Et le Comité des droits de l'enfant, lui, s'est dit encore de nouveau préoccupé par les cas de mauvais traitements d'enfants handicapés. Alors, on a rappelé que, pour moi, personnellement, l'avoir fait, j'avais connu un sort qui était catastrophique, hein, puisqu'il a fallu que je déménage. Mes enfants et moi-même, on a été suivis, on a été harcelés. Enfin, tout ça nous a demandé à déménager. On a rappelé que j'avais été relaxée, puisque ça, c'est quand même un signal fort pour les lanceurs d'alerte aujourd'hui, puisque je suis la première lanceuse d'alerte à l'avoir été. Et on rappelle à la secrétaire d'État qu'il y a quand même un problème, puisque moi, ma relaxe, elle est claire et nette, puisque dans les attendus, la justice dit « Nul ne peut rester indifférent au lit avec barreaux trop petits », à la toilette faite devant l'ensemble du groupe, aux mesures de contention, ainsi qu'à la difficile gestion de la violence, et rappelle que des différents rapports avaient déjà été tenus publics, mais que, paradoxalement à ça, le procureur de la République, lui, a tout classé. Et on dit donc à la secrétaire d'État, mais combien d'autres lanceurs d'alerte dont on ignore tout, parce que la loi du silence est terrible? Combien d'autres cas encore de lanceurs d'alerte dans notre situation? Combien d'autres cas encore de situations de maltraitance institutionnelle? Et justement, en parlant des lanceurs d'alerte, on rappelle ce que peu de professionnels du médico-social savent, c'est qu'il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence maltraitance, qui, elle, établit que la dénonciation de maltraitance constitue une liberté fondamentale et donc le salarié doit profiter d'une protection légale renforcée et que normalement il ne doit pas être licencié. Et ça, ce n'est pas appliqué. Tous ces textes juridiques en France, aujourd'hui, il y a. C'est fait, c'est acquis, mais ce n'est, il n'y a rien. Tout dysfonctionne parce que rien n'est fait. Enfin, au niveau légal, rien n'est fait. Et c'est pour ça qu'on demande à Madame la secrétaire d'État, dans l'intérêt des personnes vulnérables, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent, des actes forts en recommandation avec en conformité avec les recommandations de l'ONU faites à la France. Qui dit actes forts, on lui en propose un premier, hein, on exige carrément que l'exemple nous savons qui triste cas d'école, soit les responsables soient condamnés lourdement. On dénonce aussi la lourde responsabilité des pouvoirs publics et en dénonçant la lourde responsabilité des pouvoirs publics, on demande à Madame la secrétaire d'État qu'il y ait une enquête parlementaire, un audit ministériel afin de déterminer les responsabilités de chacun et de chacune. Et ensuite, On explique que le terme et la locution maltraitance et maltraitance institutionnelle soient désormais inscrites dans le code pénal, parce que, comme on le dit, le fait, ça n'y figure pas aujourd'hui, et c'est objectivement des plus préjudiciables pour les personnes qu'on est censé protéger. Et on rappelle que lors de la mise en application du nouveau code pénal en 1994, on aurait pu voir et espérer voir mentionner de telles dispositions dans le code pénal, mais ça n'a pas été le cas, puisque seule la notion de vulnérabilité y a été insérée, créant ainsi un énorme vide juridique. Voilà. Et on demande à ce que Madame la secrétaire d'État reçoive une délégation de notre comité de soutien en la présence de Jean Fond, l'auteur de la jurisprudence, et moi-même, pour que on puisse échanger et que il y ait un travail de réflexion et d'élaboration à ce sujet, et qu'on en sera partie prenante.
D'accord. Merci Céline de Boussier pour ces explications. Landy, tu as peut-être une question à lui poser.
Oui, juste, j'arrive dans le studio. Je profite de l'occasion de vous saluer à tous. Je profite de l'occasion, Céline, parce qu'en fait, vous prenez au mot la secrétaire d'État. Je pense qu'elle dit que la France, elle est dans la moyenne supérieure européenne. Après ce que vous avez dénoncé, le cas de Moussaron dans le Gers, vous vous sentez comment après, en fait, quand vous avez ces faits devant vous, ce que vous avez vu? Et cette déclaration de la part de dirigeants français qui disent nous sommes dans la moyenne supérieure européenne.
Céline ?
Ah, oui, j'ai du mal à entendre, en fait.
Ah, j'entends ah pas, oui, d'accord. C'est le problème, parce que pour l'instant, nous avons un problème de panne de ligne. Donc, je vais lui passer mon téléphone qui va brancher juste à côté de son micro. Voilà.
Vous m'entendez ?
Oui,
oui, bonsoir. Je disais en fait que ce que vous avez dénoncé, en fait, vous avez constaté en fait dans le cas quand on parle de Moussaron dans le Gers et quand on compare, parce que vous prenez un petit peu en mot en fait les déclarations de nos dirigeants qui disent que la France se situe dans le domaine d'handicap dans la moyenne supérieure européenne. Comment vous vous sentez en fait quand vous voyez en fait ce que vous avez vu et dénoncé et ces déclarations?
Quand on a vu les déclarations de Madame Cluzel, quand elle dit qu'on se situe dans la moyenne supérieure européenne, mais si, alors je vais essayer de ne pas avoir des propos cavaliers, mais c'est du fichage de figure clair et net. On sait très bien que la France, elle a 40 ans de retard en matière de handicap. Et elle ne peut pas se prévaloir d'être dans la moyenne supérieure quand il y a des images qui ont été tournées en caméra cachée, mais qui ont choqué la France. Hein. On est clairement sur des orphelinats du type de Ceausescu autrefois. On est en violation mais permanente du comité des droits de l'homme. Et elle ne peut pas dire qu'on se situe dans la moyenne européenne quand plusieurs pays nous ont montré du doigt. C'est pas possible. On sait que l'Italie, en matière d'inclusion, a de belles avancées par rapport à nous. Par exemple, pour prendre un exemple sur l'Italie, on sait qu'on a des élèves qui sont des enfants, des ados polyhandicapés insérés à l'école. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'accès à l'école pour ces enfants-là. Forcément, le polyhandicap, c'est mon cheval de bataille. Donc,
D'accord. Merci beaucoup, Céline. Mais je ne sais pas si Christian il avait quelque chose. Je vous passe, Christian.
Allez, nous baladons avec le portable. Voilà, c'est le direct de l'émission Traversée. Et d'ailleurs, nous ne voyons toujours pas arriver. Je crois qu'il a oublié. Il nous a oublié, le directeur de la CAFPO. Nous allons lui tirer les oreilles. Mais ceci dit, donc il y a des. Toi, tu as mené cette bataille. Il faut rappeler qu'en menant cette bataille pour le respect des personnes, des enfants, des ados, des jeunes adultes et des adultes handicapés, cette bataille t'a coûté quand même ton emploi.
Ah ben cette bataille m'a coûté très cher. J'ai perdu mon emploi. Je suis encore devant le tribunal des prud'hommes, parce que ça s'est pas encore terminé, et que voilà, aujourd'hui je suis blacklistée dans ma profession, mais tout ça, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit, on pourrait dire, là, là, la pauvre, elle a tout perdu. Alors, d'un point de vue matériel, dans une société quand même assez matérialiste, oui, j'ai perdu mon emploi, mes meubles quand j'étais obligée de partir. Bon, j'ai une situation financière qui est catastrophique, mais ça, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, en fait, j'arrêterai pas de le dire. Aujourd'hui, moi, dans ce dossier, j'y ai tout gagné. Et la chose essentielle, c'est de pouvoir me lever le matin et me regarder dans une glace en me disant que je participais pas à ça. Et puis, ben, du coup, j'ai transformé ça de quelque chose qui aurait pu être très moche et me faire plonger. J'ai transformé ça en très beau combat. D'autres m'ont rejoint. C'est le cas avec la lettre ouverte aujourd'hui. J'ai un projet d'écriture de bouquin. Voilà, c'est la vie continue, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est compliqué, mais c'est le cas, je pense, de tous les militants, de tous les gens qui se battent pour une cause juste.
Alors, il y a quand même un syndicat qui t'a soutenu, tu peux le rappeler, c'est important.
Oui, j'ai la CGT qui a toujours... le syndicat maison m'a fait couler, par contre la CGT, elle, a toujours été à mes côtés. Et puis là, on a... cette lettre ouverte a aussi fait écho à la question posée, puisque voilà, j'avais oublié, à la question posée, à la question écrite d'Adrien Quatennens à Madame la secrétaire d'État suite aux propos de l'ONU. Donc la France Insoumise est le seul mouvement politique aussi qui ne m'est pas fermé la porte au nez, puisque sauf un parti politique par éthique, on a prévenu tout le monde et personne n'a voulu bouger. Et le coup de gueule du jour, c'est quand j'entends la députée du Gers de la région de Condom, Madame Viémoré, pour ne pas la nommer, qui aujourd'hui, dans la journée des actions de l'EHPAD, nous fait de grandes déclarations en disant qu'il faut protéger les personnes bienveillantes, les personnes vulnérables et qu'il faut se montrer bienveillante. Mais Madame Viémoré, elle a fait quoi pour les enfants de Moussaron quand on l'a alertée? Enfin, je trouve ça indigne de sa part.
Ok, donc coup de gueule justifié de Céline Boussier. Donc, je rappelle que tu es lanceuse d'alerte. Et donc, dans l'ouvrage à venir, tu vas raconter tous ces déboires, toute cette histoire, toute cette bataille que tu as menée.
Ben oui, et puis qui va aller plus en avant, parce que de toute façon, c'est une bataille, mais c'est... ça a été d'autant plus rendu compliqué et difficile que c'est aussi un formidable scandale d'État, cette affaire. Enfin, quand je parle d'Anne-Marie, quand dans la lettre ouverte, on parle d'Anne-Marie Monchon, on n'a pas fait ça par hasard. Madame Anne-Marie Monchon était secrétaire d'État dans les années 2005 de mémoire. Elle avait fait de grandes déclarations à Paris sur la maltraitance, sauf que elle avait... quelques temps auparavant, elle s'était rendue à Moussaron, où finalement, pour elle, Moussaron, tout allait bien, c'était un super centre, alors qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait un rapport de l'IGAS qui était édifiant en 97, et le rapport de l'IGAS, il est clair, enfin, il n'a pas jamais été rendu public, mais quand l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, quand l'IGAS en 97 dit que il y a mélange d'argent public, hein, donc de contribuables, hein, et d'argent privé. On appelle ça comment? Quand l'IGAS se dit que certains services devaient fermer de ce centre, on appelle ça comment? Et comment ça se fait que l'État n'a pas pris ses responsabilités? C'est aussi ça le sens de la lettre ouverte, c'est que à un moment donné, ça suffit, quoi. Ils sont tous en train de se couvrir les uns les autres. Et ça devient pénible.
Alors, où est-ce que, si des auditrices et des auditeurs de l'émission Ici Demain, sur Occitanie Première, sont intéressés pour signer la pétition, comment peuvent-ils faire?
Alors, il faut aller sur un site, c'est Oui Signe. Alors, Oui, W-E, Signe, S-I-G-N. IT plus loin, oui, Signit, et normalement sur Google, et on tape plaidoyer pour des institutions sociales et médico-sociales de qualité. Sinon, sur la page Facebook du comité de soutien à Céline Boussier, on la trouve.
D'accord. Comité de soutien à Céline Boussier. Boussier, ça s'écrit B-O-U-2-S-I-E.
C'est vraiment un appel. Moi, j'y tiens. Cette lettre ouverte, elle est pour tous. C'est vraiment un appel unitaire. Parce qu'on croit à la convergence des luttes. On l'a toujours fait sur le dossier qui était le mien. Ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit dans le mouvement des EHPAD. Il y a les maisons de retraite qui fonctionnent, mais en fait, c'est partout le malaise dans le social et le médico-social. Il est avec les restrictions de budget, avec les textes pas appliqués. On est en train de broyer de l'être humain, quoi. On peut pas accepter ça. C'est pas possible. 2 minutes et demie, pas dans le berceau des droits de l'homme. C'est pas vrai.
D'accord. Merci, Céline Boussier, de t'être exprimée en direct dans l'émission Et si demain sur Occitanie Première. Et bon courage pour la suite. Et bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, nous te soutenons. Bonne soirée et au plaisir de te retrouver sur l'antenne d'Occitanie Première.
À bientôt, Christian.
Bonsoir, à bientôt. Donc, nous attendons, mais je crois que nous l'avons perdu, l'invité qui devait venir. Je crois qu'il a mangé la commission. J'aurais dû lui le rappeler tout à l'heure. En attendant, parce qu'il y a des informations quand même à vous donner. Et puis, ce soir et demain, il y a une chanteuse de talent avec des textes qui racontent des choses et de très belles choses. C'est Lise Martin que nous allons écouter tout de suite. Et après, nous passerons une partie de l'entretien qu'a réalisé Irène Finkel d'Occitanie Première, qui nous a rejoint dans le studio, d'une réalisatrice japonaise. Alors, je vais peut-être pas dire son nom, si elle s'appelle Atsuko Hirayanagi, voilà, c'est dit, et c'est pour son film Osuli. Mais en attendant, nous allons écouter Lise Martin demain, une chanteuse qui a du talent et qui est donc ce soir au Bijou et demain aussi.
Ce soir, je n'ai pas envie de rire ni de parler. Ce soir, je n'ai pas envie de boire ni de fumer. Je ne veux pas m'enivrer pour rien, pour oublier. Je ne veux pas de mémoire ni d'alcool à pleurer. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Le soleil veille tard et le sommeil ne vient pas. La douceur se fait rare sous le bruit de nos pas. Ce n'est plus pour partir, mais apprendre à rester. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. La chaleur est troublante, mais je ne veux pas danser. La musique est vibrante, mais je ne veux pas chanter. Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas crier. Je ne veux pas d'espoir, encore moins de regrets. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Si c'est encore possible, s'il n'est pas trop tard, j'achèterai un livre choisi là au hasard. J'en lirai quelques lignes, puis le refermerai. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas penser. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Si les parcs ne sont pas déjà fermés, je choisirai un arbre sous lequel m'allonger. Et à travers les feuilles, le ciel viendra pleurer. Je ne veux pas vivre en deuil, ni mourir éveillé. je veux juste trouver Paris beau en été. Je me suis endormie et je rêvais de toi si une larme a coulé. C'était la pluie, je crois, je viens de m'éveiller. Et le soleil est là, le vent sur mon visage me caresse tout bas. C'est l'été sur mon île, je regarde ma ville, si belle ce matin-là.
Adicias, bonsoir, vous êtes donc à l'écoute de l'émission Et si demain ? Et si demain, donc avec Jean-Loup Arzac-Fraisse à la réalisation, à la co-animation, co-prod, Landy Sella et donc Christian Moreton, mais pas que, puisqu'Irène Finkel nous a rejoint et elle va nous parler dans quelques instants d'un film donc qu'elle a vu pendant que moi j'étais au lit, pour cause de petits virus qui se promenaient par-ci par-là. Mais une info, Attaque organise une grande soirée le jeudi 1er février sur le thème « Toujours plus pour les riches », manifeste pour une fiscalité juste, avec à 18h présentation du dernier livre d'Attaque à la librairie Flouri, 36 rue de la Colombette. C'est une très bonne librairie. Et à partir de 18h30, il va y avoir plein de choses qui vont se dérouler à la salle Barcelone, 22 allée de Barcelone. C'est des rencontres, discussions autour des stands des organisations, et ce jusqu'à 20h. Et à 20h, après, il y aura 4 témoignages des conséquences de l'austérité budgétaire sur notre quotidien, à savoir la santé, le social, le logement et l'environnement. 20h30 aussi, présentation de thèmes du livre par Vincent Drezet, secrétaire national de Solidaires Finances Publiques. La soirée est organisée donc par Attaque Toulouse avec la participation de la CGT Haute-Garonne, de Solidaires Finances Publiques 31, Solidaires 31, Sud Collectivité Territoriale, CGT CHU Toulouse, Sud Santé Sociaux, le DAL 31 et Alternatiba. Donc ça, c'est le jeudi 1er février. Donc toujours plus pour les riches, c'est organisé par Attaque. Ça se déroule à partir de 18h, présentation donc du dernier livre d'Attaque à la librairie Flouri, un très bon libraire, 36 rue de la Colombette, une librairie indépendante. Et à partir de 18h30 aussi, plein d'infos, plein de choses qui vont se dérouler à la salle Barcelone, 22 allée de Barcelone. Et donc, bonsoir Irène.
Bonjour, bonjour Christian, bonjour à tous. Bonsoir. Alors, effectivement, je peux vous parler de O Lucie. Par contre, je ne peux pas prononcer son nom. parce
tu veux
que
là, j'essaie
je... Oui, je veux bien que tu essayes parce que Atsuko,
Atsuko Hirayanagi.
Ok, alors bon, ça c'est... Bravo, merci à tous.
Il n'y a qu'à commencer.
Voilà. Par contre, oui, alors j'ai vu ce film, j'ai effectivement également interviewé la réalisatrice et on va écouter un morceau en sachant bien sûr que c'était une interview qui a été traduite par la force des choses. Alors, elle est en anglais, hein, elle n'est pas en japonais, puisque la réalisatrice vit aujourd'hui à Los Angeles. Elle est venue quand c'est une femme qui a 42 ans. Elle est venue à Los Angeles quand elle avait 18-20 ans pour ses études. Donc, elle vit depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne le film, c'est un film qui explore le thème d'une femme en lutte constante entre son côté silencieux, comme le sont d'éducation les Japonais, et son désir si fort de s'exprimer, de vivre, d'aimer. C'est un film qui est joué avec justesse dans des décors urbains. Alors, le film se déroule aussi bien à Tokyo qu'en Californie. Il a été, pour un premier film, parce que c'est le premier film de cette jeune réalisatrice, alors c'est étonnant, c'est un film qui est étonnant à plusieurs niveaux. Que ce soit son premier film, j'en ai été très étonnée, parce que c'est un film qui est déjà extrêmement accompli. Qu'elle soit si jeune, c'est également un étonnement de ma part, parce que le film est d'une très grande maturité. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme thème dans ce film ? On retrouve la solitude, la vie, les sentiments fraternels, amoureux, la trahison, la bassesse, la vengeance, le suicide. C'est un beau film qui m'a plu, c'est un coup de cœur. J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup entendu parler dans les médias ou autres, et à tort, parce que c'est un film à voir, c'est un film intelligent. Et c'est un film sobre qui est joué avec de très beaux acteurs. Les acteurs ont une justesse de jeu, sont naturels, sont beaux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille simplement d'aller voir ce film, donc à l'ABC, qui sort de Souvenir demain dans les salles de l'ABC. Je vous conseille d'aller voir Au Lucie.
Merci Irène pour ces précisions. Et donc nous allons écouter une partie de l'entretien, puisqu'il y avait du monde à l'entretien et en plus il fallait la traduction. Bon, en tous les cas, je recommence. Nous allons donc écouter une partie de l'entretien réalisé par Irène Finkel pour Occitanie Première de la réalisatrice japonaise Atsuko Hirayanagi, donc pour son film Au Lucie. À tout de suite.
She was wondering about, so it's your first movie and you're quite young, and she was wondering, because it's a movie that makes you feel a lot of different feelings, especially when you've lived your life. How do you think people in their teenagers are going to react to such a subject?
I think regardless of age, we also there is something that we can connect where we, especially I think when you are a teenager, you have so many expectations from others and then also from yourself about your life, about future. And those things, people's expectations and the expectation to yourself can be very confining to your life, yes. Can be crippling and it creates fear. Maybe you can okay. Translate little by little. Yeah.
Donc elle répond que pour les jeunes, même pour les jeunes, et finalement particulièrement les adolescents, il y a tellement des attentes. Nous-mêmes, on a des attentes, les autres ont des attentes de nous, on a des attentes du futur, etc. Et des fois, ça peut créer finalement une blessure qui nous empêche un peu d'avancer, qui nous fait quelque chose qui nous fait peur.
And when you are a teenager, you have energy, power, and in a way, because you don't have so much experience, you are less afraid yeah. of life. So you have like power, force to go against that. So you can express more. You can behave badly. You can, do nose rings and tattoos and start doing punk rock, and yep. they can release that part of the pressure.
Yeah.
But as you get older, like Setsuko, that's different
yep.
because people expect you to be a certain way, and it's hard to come out of that. And I think John gave her that permission
yeah.
to become that again.
Right, the
yeah.
expectations. So, okay. Yeah. Et donc quand on est jeune, elle dit aussi qu'on a cette une facilité à briser justement ses attentes, donc à essayer des nouvelles choses. On a une énergie et un pouvoir et on a moins peur de tenter des choses. Et qu'un personnage comme Setsuko, qui est un âge quand même où elle a déjà fait sa vie, le monde attend d'elle une
yeah.
certaine façon d'être.
It's more difficult.
Et que c'est plus dur justement de briser ces liens-là, et que John, finalement, c'est ce qui lui a permis d'obtenir.
And she gives her courage to explore again the potential
yeah.
that who she can be.
Voilà. Et il lui donne la force finalement d'explorer son potentiel
yeah.
et ce qu'elle peut être.
Yeah, but I think the feeling of that pressure and those are something that teenagers can also
understand
and
Et du coup, elle pense que c'est quelque
empathize.
Chose que voilà, même les adolescents peuvent avoir de l'empathie pour ce sentiment d'être contraint dans un personnage quelque part.
Okay, merci.
Yeah. Normal, and women don't complain.
No. Yes.
But and you scream, no?
Yes.
Yeah.
Mm. So the campaign Me Too in France.
It's horrible. It's
the same.
Harassment.
Mm. It's normal.
Yeah, it's horrible. I think there is something the sexuality and death. something about it. I don't know. I can't explain it. I'm not a Freud, you know.
No.
But I feel intuitively something is very interconnected. Something very raw about the action, the death and sex. I don't know what it is. So yeah. So I cannot explain. But it's something came natural to me for him to do that too before this physical something, before he goes into do something very violent, you know.
Et que du coup,
it's difficult to
pour elle, il y a quelque chose comme une relation quand même entre, il peut y avoir une relation entre l'amour et le sexe, et que c'est de là qu'est venu ce fait qu'il la touche avant de.
Freud says the same. Ah,
voilà. Oh, si, I yeah, yeah.
Et que c'est pas. Enfin voilà, c'est pas spécialement le fait du toucher comme le hug qui est vraiment un truc de connexion, mais plus ce cette sensation, tu vois qu'il y a un lien finalement entre.
Yeah. And that something stirs in her. She's completely, you know, sheltered. Even in so close, but she's sheltered.
Yeah.
And something that breaks everything that kind of stirs in her, that sets go. The whole thing, yeah.
Et que tu vois même quand elle est, parce que c'est vrai que quand elle attend le train, on les voit, ils sont tous chacun, si tu veux, dans leur bulle, et que c'est finalement ça qui va venir casser sa bulle et la forcer à faire face au monde extérieur.
Yeah.
Freud say each act of love is a little death.
En français parce que je pense que
Freud il dit que chaque rapport sexuel, chaque acte d'amour, c'est une petite mort. Chaque acte sexuel.
La petite mort. Vous avez 32 ans, vous êtes arrivé aux États-Unis à 17 ans, donc vous avez passé la moitié de votre vie aux États-Unis, la moitié de votre vie au Japon. Vous vous sentez aujourd'hui japonaise ou américaine?
You spend half your life in Japan and half in the USA. How do you?
More than half.
Alors, c'est 32. Je crois qu'elle m'a dit 32.
You have 32 years.
No.
42 ans.
Ah, d'accord. Donc, elle a passé encore plus de temps aux États-Unis.
How do you feel Japanese? Or do you feel American?
I feel global, like global citizen.
Et citoyenne du monde.
Ah, ben
global citizen.
Parfait.
And now, when I see, doesn't matter French, American, you know, Dutch, African, Egyptian, I see, I can tell people by eyes. So it's all the same. Doesn't, you know, I can tell what kind of person they are by eyes.
Ben, qu'elle arrive à reconnaître ce que les gens sont avec leurs yeux et que ça. Enfin, la nationalité a pas d'importance, voilà.
Yeah, that's what how I communicate.
C'est comme ça, voilà. Avec le regard.
Le film va sortir et aux États-Unis et au Japon.
And the movie is gonna go out in USA and Japan,
yeah.
Both.
Yeah.
Oui.
Et sur l'acteur Josh Arnett, pourquoi c'est lui qu'elle a choisi pour incarner le grand américain?
I
think he's perfect, and I came across with an article about how he left his Mexico, Hollywood at the peak of his career.
Yeah.
And there's something rebellious about it, and something, you know, like how he is also struggling with that people's perception about this person. He's uncomfortable with, like, he's that opposing force,
mm-hmm.
to find something more he's comfortable with. So that whole thing, something intuitively, I thought. I mean, and I've never seen him. Do comedy before.
Yeah.
He's never done comedy, but I thought he could do it, and I think it's just my intuition, and I thought he would be, yeah. And he's American, and
mm-hmm.
tall and handsome.
He looks a bit Californian.
Yeah.
Donc elle, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà le fait que. Il est choisi d'arrêter sa carrière, il a abandonné sa carrière à Hollywood quand il était un peu au sommet. et elle trouvait qu'il y avait quelque chose de rebelle là-dedans qui l'intéressait. Et après, c'est venu d'une intuition, même s'il n'avait jamais fait comédie, elle sentait que c'était quelque chose voilà, qui pouvait être drôle. Et aussi qu'il avait besoin, peut-être lui, de trouver une autre façon de s'exprimer dans son jeu d'acteur. Et avec l'image que le reste du monde a de lui, il avait un peu du mal à se reconnaître. Et donc c'était aussi pour lui une façon d'essayer quelque chose d'autre dans le cinéma.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Et si demain sur Occitanie Première en direct entre 17h et 18h. Si vous manquez des émissions pour une raison ou pour une autre, il y a des rediffusions. Et demain, entre 17 et 18, il y aura rediffusion de Et si demain, justement, grâce à Jean-Loup Arzac-Fraisse. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les podcasts sur www.occitaniepremiere.fr et le Facebook aussi d'Occitanie Première. Voilà. Donc nous bougeons un petit peu partout dans les réseaux sociaux. Et puis, si Yann Valade nous a fait défaut ce soir, il reviendra, il a oublié, parce que peut-être qu'il était en train d'écrire une lettre d'amour, puisque le 14 février prochain, entre 9h et le 15 février du lendemain matin, 9h, il y aura 24 heures de lecture à la CAF Poésie de lettres d'amour, et Occitanie Première relaiera la manifestation, grâce toujours à Jean-Loup. Eh bien, quelqu'un nous a rejoint dans le studio et c'est merveilleux puisqu'il y a un invité qui nous a oublié. Eh bien, il y en a un autre qui arrive et c'est Adrien Massé. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue chez nous. Et donc, toi, tu prépares un BTS de la mode et il y a plein de choses qui vont se passer dans ton, je ne sais pas si on appelle ça un bahut, mais en tous les cas, l'établissement dans lequel tu étudies, mais en même temps, tu as aussi des projets. Et il va y avoir au mois de mars aussi une manifestation. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie d'ailleurs?
Alors, tout d'abord, c'est pourquoi j'ai voulu la mode? Parce que je suis passionné déjà par les stars et les tapis rouges. Et donc, j'observais beaucoup les tenues. Et donc, je me renseignais auprès de quel créateur, quelles tenues avaient été faites, les matières. Et donc, voilà. Et après, j'ai dû choisir une voie professionnelle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la mode? Et ça m'a plu. Du coup, j'ai effectué quelques stages dans la région. Je suis aussi parti en Italie, du côté de Venise, dans une entreprise qui travaille avec Valentino, Saint-Laurent, enfin, des grands noms de la mode. Et ensuite, donc là, je fais mon BTS. J'ai aussi travaillé sur un clip donc, de Bad Badia, donc une artiste marocaine, pardon. Donc j'ai travaillé sur la direction artistique et là actuellement sur...
Est-ce que le clip est déjà en ligne ou
oui,
pas
oui, il est sur YouTube, il est
alors,
sorti.
Alors peut-être que Jean-Loup, est-ce que tu pourrais le récupérer
Oui, bien sûr.
Ouais,
ouais, c'est possible.
Ok.
Le mettre alors... en ligne, en lien avec le podcast, en dessous, sur le podcast.
D'accord. Et là, pendant l'émission, est-ce qu'il y a possibilité aussi de le caler ou pas?
Oui, tu veux qu'on l'écoute? On peut l'écouter,
oui. Dans quelques instants, oui, d'accord, nous continuons avec Adrien. Mais comme c'est une surprise, c'est pour ça, le temps que tu mettes en place tout l'aspect technique que nous ne maîtrisons pas. Donc, ouais. Donc tu as travaillé sur ce clip.
Sur ce clip. Et ensuite, donc sur Toulouse, il y a des défilés de mode avec donc, des amis bijoutiers, donc Fabos, qui organise des défilés dans des boîtes de nuit sur Toulouse, avec donc, mon ami Dorian Bouchalibert, donc, qui est un autre créateur aussi, qui lui était à l'école Easy Mode. Je sais pas si vous connaissez. Mmh. Donc voilà. Donc lui qui a fait des études supérieures en tant que créateur. Et du coup, là, en fait, pour donc, le 3 mars, c'est pour l'association donc, tout à l'école. Donc, c'est pour les filles du Cambodge qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller à l'école, donc de récolter des fonds pour qu'elles puissent après aller étudier comme tout le monde.
Et où est-ce que ça va se passer et à quelle heure?
Alors ça se passe donc le 3 mars donc au centre de Toulouse à la salle Duranti Ozette.
D'accord.
Voilà. Et après là donc le 15 février donc bientôt. Donc en fait pour les mannequins, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas forcément de sélection, donc n'importe quelle femme, fille peut se présenter. tout en garde. Bon, il faut quand même être assez grande. Mais sinon, c'est ouvert à tout public. Donc, toutes les jeunes filles peuvent se présenter pour défiler.
Voilà, qui auraient
c'est
envie.
Pas,
de...
Voilà, pas forcément avoir une taille 34 ou quoi. C'est vraiment ouvert à n'importe quelle personne.
D'accord. Lundi.
Maintenant, en février, c'est une sorte de défilé. C'est...
Oui, c'est un défilé. Donc, en fait, on va être quatre créateurs. On va chacun présenter huit créations. Et à la fin, donc, chaque créateur, donc, on a tous accepté de faire une création pour l'événement et qui va être donc, vendue à la fin. Et la moitié des bénéfices seront reversés à l'association.
D'accord. Voilà. Donc, tu peux nous rappeler le nom de l'association ?
Tout à l'école.
D'accord. Et donc, c'est pour aider au Cambodge, c'est ça ?
Oui, les jeunes filles à pouvoir étudier, aller à l'école. Elles ont pas cette possibilité-là. Donc voilà.
Landy, d'autres questions ? Pas d'autres questions ?
Et comment, vous êtes d'origine de Toulouse ?
Non, pas. Non, moi je suis originaire du nord de la France, donc d'accord. De Lille, et je suis descendu maintenant ça fait 8-9 ans que je suis descendu dans la région.
D'accord.
Donc voilà.
Et vous trouvez un très bon accueil à Toulouse par rapport à la mode ?
Pour l'instant ça va, après pour la poursuite d'études, il va falloir partir quand même sur Paris et à l'étranger parce que sur Toulouse ça reste quand même assez bouché.
Il va falloir peut-être faire en sorte de décentraliser Paris et d'amener la mode aussi à Toulouse, comme c'est le cas aujourd'hui d'un certain nombre de dessins animés ou d'animations, et notamment de TAT Productions, les As de la Jungle qu'ils ont réussi à percer. Alors pourquoi pas pour la mode ? Alors oui, Paris, Paris, Paris et Toulouse, alors la capitale ou la co-capitale de l'Occitanie, ça marche aussi.
Mais surtout qu'il y a de très bons créateurs en province. Hein. Il n'y a pas que les meilleurs. Paris, ça fait toujours rêver, mais bon, à voir.
Aujourd'hui, vous travaillez avec qui sur la place toulousaine ?
Dorian Bouchalibert, donc c'est vraiment l'étoile montante sur Toulouse. Après, Agnès Youwam, donc c'est une créatrice polonaise donc, qui a travaillé donc, sur des Fashion Week. Et qui travaille à travers le monde. Fabos, donc c'est des bijoutiers qui sont implantés dans 40 pays. Après, c'est vraiment, on travaille souvent ensemble, on fait vraiment les défilés ensemble parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. On reste souvent la même équipe, même au niveau des mannequins, parce que bon, on se connaît tous et c'est souvent des shows. Enfin, c'est sympa. Hein.
Et donc, il y a un travail justement en équipe, avec un respect des uns et des autres, parce que quelquefois, la mode, enfin, des très grands couturiers très très connus, c'est un peu hard de ce que nous entendons des fois.
Ah oui, oui, mais c'est... Bon, après, le jour du défilé, souvent, c'est un peu stressant. Bon, moi, je suis souvent assez... Enfin, moi, je ne suis pas du tout stressé, je suis très laxiste, donc je suis très... Et donc souvent, je me fais taper sur les doigts parce que justement, il faut être très cadré, tout est compté à la minute, voire même la seconde. Donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais bon.
Pourtant, l'erreur est humaine. Même les machines se trompent. Des fois, elles nous envoient en enfer. Ou que sais-je. Donc, est-ce que le clip Jean-Loup est en place ?
On peut écouter Bad Badia, oui, effectivement.
Donc, tu nous rappelles ce que tu y as fait, Adrien Massé ?
Bad Badia, qui maintenant est une amie, mais au départ, qui m'a contacté donc, pour réaliser des créations pour son clip et gérer la direction artistique. Donc on s'est rencontrés, on a bu un verre, on a discuté, elle m'a présenté son projet, elle m'a fait écouter sa musique. Et je me suis dit pourquoi pas. J'avais 17 ans quand elle m'a contacté, donc je me suis dit à 17 ans ça peut être sympa de faire ça. Et puis du coup elle est partie sur Paris donc, pour tourner le clip. Elle a été à la Cité du cinéma donc de Luc Besson. Donc voilà, et on a fait ce projet ensemble.
Et après, elle est basée
donc
où
après, alors, elle est surtout connue. Elle a voulu se lancer en France, mais après, elle est surtout connue donc, au Maroc. Donc, elle fait des télés, des concerts. Et du coup, là, pour, il me semble, mars-avril, on est invité pour un festival du cinéma. Donc, il y a pour projet d'y aller. Donc, toujours de faire des créations pour elle. D'accord. C'est en projet, là.
Ok. Eh bien, nous allons l'écouter. Merci, Jean-Loup, de l'avoir calé. Et à tout de suite sur Occitanie Première dans l'émission « Et si demain ?»
comme des pions, comme des moutons, les hommes avancent avec violence attirés par le sang. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes le paieront. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes avancent avec violence attirés par l'argent. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes le paieront. Si à la place des balles il y avait des fleurs, la cible première en serait ton cœur. Mais c'est qu'à l'heure la guerre est toujours présente, même dans les dessins animés, pistolets plastifiés. Une bombe reste une bombe, même tout comme de jouer. Esprit enfanté, éduqué dans la destruction. Mais moi je vous dis à tous que le monde est bien prédestiné à se voir terminé. Si dès à présent vous ne réagissez, ils ne tournent plus rond, mais ils tournent en rond depuis je ne sais plus combien de générations. Il y a eu les guerres de religion, les guerres d'exploitation, la guerre encore la guerre. Armement nucléaire, c'est encore la guerre. Super scientifique, je ne vois pas votre mérite. Vos armes intéressées en immortels objets se servent de l'amour pour édifier leur palais. Attirés par le sang, comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes, comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes avancent avec violence, attirés par l'argent. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes, le paieront. Si à la place des balles il y avait des fleurs, la cible première en serait ton cœur. Mais c'est à la guerre toujours présente, même dans les dessins animés, pistolets plastifiés. Une bombe reste une bombe, même sous forme de jouet. Enfant à éduquer dans la destruction. Mais moi je vous dis à tous que le monde est bel et bien prédestiné à se voir terminer. Si dès à présent vous ne réagissez, ils ne tournent plus rond, mais ils tournent depuis je ne sais combien de générations. Il y a eu les guerres de religion, les guerres d'exploitation, la guerre encore la guerre. Allemand nucléaire, c'est encore la guerre. Super scientifique, je ne vois pas votre mérite. Vos hommes intéressés, créant de mortels objets, se servent de l'amour pour édifier leur palais. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes avancent avec violence attirés par le sang. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes le paieront. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes avancent avec violence attirés par l'argent. Comme des cons, comme des pions, comme des moutons, les hommes le paieront.
Et si demain, la mode déménageait de Paris pour venir à Toulouse, ben c'est peut-être le cas, ça va se faire grâce à Adrien Massé qui est donc avec nous, et un spécialiste de la mode et donc qui a participé à l'élaboration du clip dont nous venons d'entendre la chanteuse, si nous rappelle le nom.
Badia.
Voilà. Et qui viendra peut-être nous voir en studio en Occitanie première.
Oui, je pense qu'elle viendra, ça lui fera beaucoup plaisir.
D'accord, eh bien, écoute, quand tu auras un créneau de disponible, à la limite, comme tu as des cours qui durent jusqu'à 17h, entre 17 et 18, elle arrivera peut-être avant toi, mais tu lui en parles, et donc Jean-Loup relayera l'info, et puis nous calerons un mardi avec elle.
Pas de souci. Un grand plaisir.
On va faire la teuf dans l'émission. Et si demain, la musique, nous allons mettre de l'ambiance. Et qui sait, peut-être que de temps en temps, d'ailleurs, peut-être pas régulièrement, mais ça, c'est sur une proposition de Jean-Loup Arzac-Fraisse. Pourquoi pas faire des émissions comme ça consacrées à la chanson de qualité. Et donc, ce ne serait pas un rendez-vous forcément régulier, mais vendredi dernier, donc dans l'émission Traversée, il y avait de l'ambiance avec une bande qui participait à des tours de chant, puisque nous avions un studio Leïla Wissou, donc, qui a sorti un album, qui a du talent. Et puis, nous avions aussi un autre artiste, Guillaume Farley, qui était là aussi et qui a chanté en direct. Et il y avait Yasmine Belayel, qui est un petit peu la coordinatrice de Détour de Chant. Et il y avait de l'ambiance dans le studio, il y avait du monde.
Puis toujours, tu as aimé l'ambiance en fait, dans le studio. Je me souviens avec Manu Kos et Emmanuel Rien aussi. C'était ça.
Oui.
Il y a longtemps qu'ils sont venus dans le studio, pareil. Donc je pense que ça fait partie en fait de l'ADN de ton émission.
Et puis, je pense que viendra dans l'émission, et si demain, et peut-être aussi dans Traversée, Marianne Colombier aussi, qui a déjà chanté en direct dans mes émissions sur une autre station radiophonique. Alors, Adrien Massette, donc, toi, tu as envie de créer une collection, donc de percer complètement dans ce métier-là. Est-ce qu'il faut serrer des coudes, se faire un passage, faire des rencontres? C'est pas forcément évident de s'imposer dans ce monde-là, comme dans d'autres métiers d'ailleurs.
Oui, c'est sûr, c'est plus ça dépend. Ça reste de l'art, donc on sait tous que le milieu artistique, c'est quand même un milieu assez dur et de requins. Donc il faut faire attention à ces rencontres. Il faut aussi provoquer parfois la chance, aller dans certains endroits, pousser certaines portes. Là, je sais que par exemple, au mois de février, donc je monte sur Paris, je vais aller faire du porte à porte dans les grandes maisons de couture pour un stage, parce que je dois effectuer un stage durant mes 2 ans de BTS. Donc il faut sortir de ses frontières et pas rester bloqué à sa région, même si on aimerait parfois. Mais bon, voilà, il faut bouger, il faut partir.
Merci d'avoir bougé, d'être venu jusqu'à nous.
Merci,
Adrien. Et puis, donc, nous nous retrouverons avec la chanteuse dans ce studio d'Occitanie Première. Merci, Jean-Louf, d'avoir réalisé la technique. Jean-Louf Arzac-Fraisse, parce que sans réalisation, forcément pas d'émission. Lundi, je te dis à quand la semaine prochaine, même rendez-vous 17-18.
Oui, rendez-vous pris. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, l'indicatif est signé de Damien Moreto. Et donc, merci Adrien Massé d'être venu jusqu'à nous finalement pour ne pas parler de la mode, des clips, de la création. Et c'est important, la création. Il n'y a pas que la finance dans les banques où il y a des trésors qui s'entassent, mais qui s'entassent pour rien. C'est du vent, alors que l'humain, c'est essentiel pour la vie. La culture, l'écologie, tout ça, l'humanisme, oui. La finance, non. Bye bye, à la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous dès vendredi matin pour l'émission Traversée entre 10h et midi en direct.